Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.
Salut, bonsoir.
Bonsoir. Vous êtes bien sur Calibre. Nous sommes le 14 juin 2012. Et voilà, et à l'antenne ce soir, c'est Myriam et Mélanie. Et à la technique, c'est Noémie et Lou.
Absolument. Bienvenue à votre libre antenne, hein, puisque Calibre, c'est vous qui pouvez décider de ce dont on parle ce soir-là. Puisque le principe de la libre antenne, s'il y a un sujet qui vous taraude ou qui vous fait envie de discuter, de raconter, de témoigner, de gueuler, de vous enchanter, de vous enthousiasmer. Bref, tout est possible. Et le numéro de téléphone pour nous joindre, c'est le 04 76 09 09 09.
Et voilà, alors c'est une libre antenne. Après, nous, on a un peu des domaines de prédilection. Alors, c'est un peu comme dit le jingle et le nom de l'émission, le cas de Calibre, CAS, c'est corps, amour et sexualité. Voilà, c'est un peu les domaines où nous, on adore discuter, débattre, réfléchir, approfondir. Donc voilà, c'est ça, c'est Calibre. Voilà.
Voilà, donc n'hésitez pas hein, à nous passer un petit coup de fil quand vous en sentirez l'envie venir.
Une petite question quiz, ça fait longtemps.
Ah oui, tout à fait.
Une petite question, enfin ça fait longtemps, il y en avait une la semaine dernière. Non, c'était pas une question quiz, c'était un grand jeu concours.
Oui, c'est pas vraiment pareil.
C'était pas vraiment pareil. Cette fois, c'est une question quiz. Qu'est-ce que l'alopécie ?
Alopécie.
Alors, j'appelle A-L-O-P-E. CIE, l'alopécie, voilà, enfin alopécie. Voilà, appelez-nous pour nous raconter ce que c'est l'alopécie.
Et puis il y aura sans doute un petit truc à gagner.
Voilà.
On verra, on discutera, on négociera.
peut-être on écoute une petite musique pour commencer en vous attendant. Donc ça va être White Trash Girl de Candy Cane. C'est parti.
I'm a white trash girl from the wrong side of town. I live alone in a trailer. Don't put me down. I'm as happy as can be, but I can't tell a lie. I'm a white trash girl. I need a low-down guy. You don't have. Trash girl. That suits me fine. I know right where I come from. My daddy's doing time.
calvitie volontaire. Pourquoi je les ai rasées? Pourquoi je les ai laissées repousser? Je suis une femme trentenaire et j'ai porté le crâne rasé ou les cheveux ultra courts pendant quelques années. Cela n'était dû ni à une perte de cheveux ni à une quelconque maladie. J'ai souvent eu les cheveux courts et pour moi il s'agissait d'une coupe de cheveux comme une autre, simplement un peu plus courte. Et ce n'est pas venu d'un seul coup non plus, mais progressivement. Des cheveux longs, j'étais passée à quelques coupes courtes, puis à une coupe brosse, à la tondeuse. Ce n'est que l'année suivante que j'ai rasé à blanc. En y repensant bien, je crois que j'ai d'abord fait cela par confort, par sens pratique ou encore par minimalisme. À choisir, je suis plutôt bouddhiste que fashion victime dans la veine de ces body artistes bardés de tatouages et piercings. Je n'ai pas fait ça par rébellion, par anticonformisme ou par volonté de me faire remarquer. En réalité, j'ai un tempérament plutôt discret et timide. Voilà l'anecdote qui a été le déclencheur. Je venais tout juste de les raser pour la première fois, pour essayer, pour voir. C'était dans les magasins, notamment les grands magasins prestigieux de la capitale. Les vendeuses rechignaient à me vendre un article parce que je n'avais pas la bonne tête. Pourtant, je portais un foulard, joliment enturbanné sur la tête. Pourtant, j'étais correcte, polie, normale. Mais en remarquant mes tempes et ma nuque dégarnie, elle devenait nonchalante, affichant une moue de dégoût presque méprisante. C'est donc comme cela qu'elle considère les clientes en cours de chimio. Je n'étais ni faible ni malade et j'ai eu mal de ce comportement irrespectueux. J'ai eu honte du regard que le monde porte sur les personnes qui n'ont pas de cheveux, qu'ils aient été rasés par choix ou qu'ils soient tombés à la suite d'une maladie ou d'un traitement. C'est à ce moment que j'ai consciemment décidé que j'allais demeurer rasée. Un temps, pour voir. Je me suis dit qu'étant vaillante et forte, je pouvais assumer ma tête telle qu'elle était, même sans cheveux, et la porter fièrement, par solidarité pour les personnes qui n'ont pas eu le choix de perdre leurs cheveux. Ma grand-mère a perdu tous ses cheveux, suite au traitement chimiothérapique d'un cancer de la thyroïde. Je rêvais sans doute qu'à force, le respect viendrait. Finalement, je suis restée 3 ans avec le crâne rasé, et c'est moi qui ai perdu ma force. En commençant ce site, je me posais beaucoup de questions. Cela faisait 3 ans que j'avais les cheveux rasés ou très courts et je me demandais pourquoi c'était si mal perçu, pourquoi cela suscitait autant de réactions, pourquoi cela ébranlait systématiquement mon interlocuteur ou mon interlocutrice. Que ce soit de l'admiration ou de la haine, jamais il n'y avait de réaction normale, alors que je me sentais moi-même normale. Je veux dire que je me sentais d'abord être moi-même, bien dans ma peau. Qu'a-t-elle de si étrange, ma coupe de cheveux ? Bien que je ne connaisse pas la maladie ni l'angoisse de voir ses cheveux tomber, se clairsemer, je voudrais exprimer ma solidarité envers les femmes qui se retrouvent chauves malgré elles. Il me semble qu'une chose est commune à toute femme qui se montre chauve. Que ses cheveux soient tombés ou qu'elle les ait rasés, ce sont les réactions parfois dures de l'entourage. Pour ma part, je cède, je laisse repousser. Il ne semble pas encore venu le temps où on laissera les femmes faire ce qu'elles veulent de leurs cheveux.
Donc c'est un témoignage qu'on a trouvé sur un site. On avait envie de parler de cheveux rasés ce soir. Et donc c'est un site qui s'appelle tetue.net, T-E-T-U-E.net. C'est pour ça qu'elle parle du site et qui est vraiment dédié aux femmes qui décident de se couper les cheveux très courts, de se les raser. Voilà, donc il y a plein de témoignages super. Vraiment, c'est un site que je vous conseille.
Des témoignages, mais pas que ça. Il y a aussi
des réflexions.
Des réflexions, mais peut-être on en parlera un peu plus après, parce que nous avons un appel. Donc on a un appel.
Priorité au direct.
Priorité au direct, voilà. Bonsoir, Lizzie.
Oui, bonsoir.
Bienvenue.
Merci.
Alors, tu nous appelles pour raconter quelque chose ?
Oui, bah oui, parce que c'est une expérience que j'ai faite, la boule à zéro.
D'accord.
Donc il y a quelques années quand même, ça remonte à j'avais 20 ans.
D'accord.
Et du coup, j'en aurais bien parlé parce que c'était un contexte particulier où je l'ai fait parce que j'étais dans une région très facho, où avoir la boule à zéro, ça avait une signification que ça n'a pas forcément ailleurs en fait. Et qui était assez pesante et qui m'a fait l'abandonner au bout d'un certain temps parce qu'on me prenait un peu trop facilement pour une néo-nazie.
D'accord. Du coup, toi, tu l'avais fait pour une toute autre raison et en fait, tu as arrêté parce que c'était dans ce contexte-là que tu habitais, quoi.
Ouais, exactement. Ouais. Moi, je l'avais fait pour des raisons perso, quoi, à la fois esthétiques Et un peu des questions de valeur aussi à un moment, parce que pour en terminer avec, avec être une fille, avoir des cheveux longs, quoi, voilà, comme une espèce de normalité obligatoire.
Ouais.
Et du coup, à la sortie, c'est devenu un peu pesant, parce que il y avait toujours cette question qui revenait, mais est-ce que tu es nazie, voilà, enfin bon, et en plus, on m'a prise, enfin, je suis tombée un jour sur des petits gars d'extrême droite qui m'ont prise pour une copine à eux, qui j'ai dû expliquer que c'était pas du tout le cas. Et j'ai vécu ça comme un truc un peu violent, en fait, où ça devenait stigmatisant et lourd à vivre, quoi.
D'accord. Et t'as eu d'autres réactions sinon du fait de cette coupe de cheveux qui était sur d'autres, enfin d'autres représentations qui émergeaient suite à ça?
Oui. Alors, enfin, en général, le truc qui revenait, c'est mais pourtant t'es une fille.
Mais pourtant t'es une fille.
Sous-entendu, tu devrais pas faire ça puisque c'est pas dans l'ordre des choses féminin. Voilà. Donc ça, c'était la réaction la plus commune que j'ai eue de la part de gens qui se posaient pas ce genre de questions, en fait.
Mais genre, ils comprenaient pas ou ils te le reprochaient ?
Il y avait un peu des deux. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui comprenaient pas ou des gens qui étaient surpris pour le coup, qui me disaient « Ah bon ? Et pourquoi ?» Enfin, comme s'ils avaient une explication à fournir. En général, quand on va chez le coiffeur, on fournit pas d'explication. Mais là, pour la boule à zéro, il fallait fournir une explication déjà. Et puis après, j'ai eu carrément des attitudes de reproches, y compris d'ailleurs une fois où ça a vraiment dégénéré, où je, enfin, j'étais à l'époque en CTU, donc dans le sud de la France, et puis j'ai eu un mec que je connaissais de loin, comme ça, qui m'invite à boire une bière dans sa chambre, et qui a fini par m'enfermer dans sa chambre, en fait. Je m'en suis moyennement rendu compte parce que j'ai vu fermer la porte, mais j'ai pas percuté, j'étais lancée dans une discussion, et qui m'a coincée en me demandant pourquoi je faisais ça, comme si c'était une atteinte à je sais pas quoi, apparemment à l'idée de la femme selon lui, et qui m'a bloquée pendant plus de 45 minutes, où ça s'est terminé avec des coups, quoi, moi, de ma part, pour sortir de cette chambre. Parce que c'est quelqu'un qui me disait, mais t'es une femme, c'est inadmissible de faire ça, tu devrais pas faire ça, pourquoi tu fais ça ? Enfin bon, une espèce d'inquisition.
Oh là là.
Donc des réactions un peu vives. Alors je pense que c'est lié aussi au lieu. C'est-à-dire que moi j'étais entre le Var et les Alpes-Maritimes à l'époque, et c'est des régions notoirement facho, ou notoirement habitées par des personnes âgées ou des gens, entre guillemets, bien pensants. Voilà, et du coup, je me sentais un peu isolée sur ce terrain-là, et j'en avais marre de la méprise où je suis d'extrême droite, ou des questionnements comme quoi c'était pas normal, parce qu'une femme dans le sud, ça se décolore en blond peroxydé, enfin j'allais dire,
ouais.
C'est un peu le cliché.
Et en même temps, toi, ce que tu disais, c'est que quand tu expliquais tes motivations, c'était un truc esthétique, en fait, et en même temps, pour toi, il y avait quand même ce truc de, à un moment donné, vouloir de refuser des codes de la féminité.
Ouais, pour moi, il y avait une volonté de rupture. C'est-à-dire, il y avait une volonté de provoque aussi. Hein. C'est-à-dire que j'en avais un peu marre d'avoir, comme on disait, t'as des boucles blondes, c'est mignon, boucles d'or. Voilà, donc on m'avait collé une étiquette féminin mignon, voilà, enfin avec plein de clichés derrière, et j'avais envie de rompre avec ce truc. Moi, derrière, je voyais autre chose aussi, c'est que j'avais envie, enfin, je voyais ça comme une espèce de mise à nu. C'est vrai que je me disais, j'ai envie de voir ma vraie gueule, voilà. Si j'élimine les fioritures féminines, justement, ça donne quoi? Donc, il y avait une espèce de volonté presque de connaissance de soi à travers aussi cette mise à nu que représentait la boule à zéro à ce moment-là. Et du coup, voilà, c'était la rupture. L'esthétiquement, moi, j'aimais bien, je trouvais ça beau. Et en plus, il y avait quelque chose d'autre aussi, c'est que ça faisait peur aux gens. Donc moi, il y avait une espèce de plaisir aussi que je prenais à un peu impressionner, entre guillemets. Voilà, à pas être réduite à l'image féminin, fragile, comme ça, parce que je trouvais que, voilà, tout de suite, ça en imposait. Les gens avaient un mouvement un peu de recul pour pas mal d'entre eux, pas tous, hein, heureusement, mais pas mal d'entre eux. Et je me souviens de quelqu'un qui m'a dit, par exemple, t'es inhumaine, comme ça.
Ouais.
Voilà, t'es inhumaine. Ça m'avait frappée, quoi, parce que j'avais trouvé ça fou, quoi.
Bah ouais. Et du coup, cette expérience, elle t'a plutôt renforcée, ou tu t'en es pris tellement dans la tête que, en fait, ça t'a un peu... t'as renoncé en te disant, bon, bah, tant pis.
Non, en fait, j'ai enchaîné avec les cheveux de toutes les couleurs très courts. Et donc, ça m'a pas du tout dissuadé de revenir à des cheveux longs normaux, soi-disant, voilà, avec une couleur normale et une coupe normale. Et là, j'ai remis un coup de tondeuse la semaine dernière, parce que ça fait du bien, quoi, et qu'il y en a marre des clichés aussi. Donc ça a été lourd à porter, j'ai eu besoin d'en finir à un moment, j'ai gardé cette coupe pendant presque une année quasiment à l'époque, et vraiment vous la 0-0, quoi, hein, vraiment tondeuse sans sabots. Et puis ensuite j'ai relaissé pousser par fatigue, et puis j'en avais marre de répondre en fait, j'en avais marre d'avoir à me justifier, je vivais quand même ça comme une justification, même si je me sentais sûre de ce que je disais. Et puis ça m'a pas dissuadée en revanche de continuer à faire ce que je voulais de moi, quoi.
Et sur ce truc que tu racontais de enlever les fioritures pour te voir tel que tu es, ça t'a apporté une réponse visuelle, ou en fait ça t'a plutôt dit que tu pouvais en fait faire un peu ce que tu voulais avec tes cheveux et que ça changeait rien?
Moi je me suis rendu compte que ça m'a aidé à bien aimer. C'est-à-dire que de voir ma vraie tête, on enlève tout, il reste quoi, en fait, c'était ça. Du coup, je me suis dit, oh, ça va.
Ouais, tu flippais avant.
De l'ordre en fait. J'ai besoin de découvrir aussi quelque chose qui m'échappe en l'état, voilà. Dans la normalité, il y a une part de moi qui m'échappe, en fait.
Ouais, c'est intéressant. Ouais, chouette.
Donc voilà, et puis après, il y avait un autre truc en arrière-plan, mais ça a été un foirage complet, c'est que j'avais par ailleurs aussi une sale histoire familiale d'inceste, en fait, et j'espérais que doter les attributs de la féminité courant, ça allait dissuader mon agresseur. Et en fait, ça n'a pas du tout été le cas, parce qu'au contraire, il m'aimait bien comme ça, et j'avais l'impression qu'en fait, je pouvais faire n'importe quoi, ça ne le dissuadait pas du tout. Donc là aussi, ça a été une espèce de déception, parce que j'espérais, pour le coup, que cette normalité, elle allait être opérante, et qu'elle allait me rendre non désirable, voilà.
Oui, ou même au regard d'autres personnes, en fait, parce que moi, j'ai aussi fait l'expérience de me couper les cheveux, enfin, de me raser les cheveux, et je crois qu'il y a ce truc de... Quand on dit refuser les codes de la féminité, c'est pas juste les refuser pour les refuser, mais c'est... Enfin, moi, des fois, ce que j'ai ressenti à l'époque, c'était aussi un besoin de me protéger, en fait, de regard de garçon, ouais. et du coup, de dire, en fait, là, je vais m'asexuer. Et je vais plus, tu vas plus, enfin tous les garçons qui pouvaient m'entourer, vous allez plus me considérer comme une proie, comme d'habitude, quoi.
Oui, c'est ça. En fait, c'est de sortir des rapports de séduction habituels, en n'étant plus l'objet habituel de ces rapports-là, quoi.
Sauf que moi, j'ai l'impression que ça, du coup, ça plaît à d'autres gars, en fait, et que quoi qu'on fasse, il y a toujours des gars qui vont nous trouver désirables, en fait, j'ai l'impression, et qui vont nous faire chier, quoi.
J'ai entendu des trucs, enfin, c'est une phrase surprenante que je m'attendais pas à entendre, du genre « Ouah, t'as un beau crâne !»
Il y a des gens qui fétichisent, qui kiffent la forme des crânes.
Voilà, enfin, en gros...
En gros, ouais, c'est... Merci bien, en tout cas, pour ton témoignage.
Ben de rien. c'est je trouvais ça chouette d'échanger là-dessus, quoi.
Est-ce que tu encourages les nanas à l'écoute ce soir de tenter l'expérience du rasage partiel ou total des cheveux?
Oui, moi je le conseille parce que je trouve que pour la même raison que celle qui m'avait habité à l'époque, ça aide à voir qui on est, en fait. C'est-à-dire que voilà, on est à vif. C'est comme un fruit pelé, quoi. Enfin, ça ressemble à ça. Pour moi, il y a un truc de... Voilà, à nu, il y a un intérêt à être à nu aussi, et pas à nu dans la nudité du corps, quoi. Mais voilà, à nu de cette identité-là qu'on nous colle d'office. Et puis, l'autre truc, c'est... je trouve que ça rend plus fort, en fait, d'assumer un truc en étant en rupture avec les codes habituels. Moi, je sais que ça m'a transformée vachement, en fait. Je me sens beaucoup plus assurée de ce que je suis aujourd'hui depuis cette période-là. Voilà, donc ça m'a donné une espèce de confiance en moi que j'avais pas du tout à l'époque.
Oui, après je pense que c'est
petite chose avant, et maintenant, enfin, je me sens plus du tout petite chose, et c'est depuis ce moment-là, je trouve que ça oblige à se tenir droit aussi, d'avoir la boule à zéro. Enfin, il y a un truc de cet ordre-là presque. J'avais l'impression que ça obligeait à se relever la colonne vertébrale, à se tenir droit et à regarder en face, et ça fait un bien fou, quoi.
Oui, de toute façon, tu ne passes pas inaperçu.
Aussi un peu, quoi.
Ouais, après, je pense qu'il y a aussi d'autres choses qui permettent, d'autres choses qu'on assume dans la vie et qui permettent aussi de se sentir plus fort. Mais effectivement, ça fait partie des choses, des expériences, notamment quand on est une fille.
Ouais, carrément. Ouais. Oui, puis à certains moments de la vie, je pense que ça peut marquer quelque chose. Voilà. Je sais que ça tombait à un moment où j'avais besoin qu'il se passe quelque chose, et je me sentais pas bien et tout. Et ça a joué un rôle hyper important, en fait, parce que ça m'a brassé complètement dans ce que j'étais. Et ça m'a obligée à pouvoir assumer un non. Non, vous m'emmerdez avec vos codes. Non, je fais ce que je veux de moi, en fait. C'est aussi ça, vous disposez pas de mon image, c'est moi qui en dispose. Si vous vivez ça, vous, comme une destruction de quelque chose, eh ben moi, je revendique à la limite ce droit à la destruction. Si vous percevez ça comme ça, ben tant pis, quoi. Mmh. Donc, je le conseille.
Super. Bon, ben merci beaucoup pour ton appel témoignage de cette expérience. Et puis, une bonne soirée et à la prochaine.
On avait notre question quiz. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de l'entendre au début de l'émission, mais peut-être que tu sais. Qu'est-ce qu'est l'alopécie?
L'alopécie, c'est la calvitie, en fait.
Ouais, c'est le... Enfin, la calvitie, je pense que c'est le résultat de l'alopécie.
Attends. Ouais. Alors, j'ai appris, en découvrant ce mot, quand même, j'ai découvert que la calvitie ne pouvait toucher que les hommes, en tout cas des personnes qui ont des caractères secondaires liés au XY, là.
Ouais.
Et que du coup, les femmes XX ne peuvent pas avoir la calvitie, mais il y a des chutes de cheveux plus ou moins importantes. Mais on ne peut pas se retrouver chauve à moins de suivre un traitement qui fait tomber les cheveux, quoi. Donc c'est ça, l'alopécie.
Oui, c'est ça, ouais. C'est le processus qui mène à la calvitie, ouais. La version scientifique médicale.
Bon, et bah du coup, t'as droit à un cadeau que tu vas pouvoir négocier en technique. Avec Noémie. Voilà.
Bah merci.
Merci de ton appel.
Salut.
Salut. Au revoir.
Bon, ben voilà, peut-être avant de s'écouter une petite musique, on rappelle le site internet tetue.net, TETUE.net où il y a plein d'autres témoignages de femmes qui se sont rasées la tête ou pas d'ailleurs, et des petits conseils pour se raser la tête, des trucs historiques aussi sur les femmes qui se faisaient raser la tête après la Seconde Guerre mondiale. Enfin, il y a plein d'approches et en tout cas c'est un site qui se veut un peu un truc de promotion, de soutien en tout cas aux femmes qui veulent se les raser ou qui se les rasent. Et
mais pas que, enfin c'est vraiment un site que j'ai envie de définir comme pro-choix, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a aussi un article où il y a une personne qui dit « Ah ouais, les meufs aux cheveux longs, c'est trop débile de passer du temps comme ça. » Et en fait, les personnes qui ont créé les modératrices redisent « Mais en fait, c'est chacune qui fait bien comme elle veut, il n'y a pas de truc débile ou pas débile. » Enfin voilà, il est vraiment bien fait, je trouve.
Voilà, on écoute Salt and Pepper, Push It.
Pick up on this.
toujours sur Calibre 97 FM ou partout ailleurs sur internet, enfin ou sur notre site internet cas-libre.org. Vous pouvez toujours nous appeler au 04 76 09 09 09. Et là, nous, on avait prévu de parler de préservatifs internes ou de fémidons ou de capotes féminines, comme vous avez envie de l'appeler, quoi. Et si vous avez envie de témoigner sur ce moyen de contraception-là, ou de protection d'IST, eh ben, appelez-nous 04 67 09 09 09, je le redis. Et du coup, pour vous dire, en fait, on va vous lire des témoignages de personnes qui ont de meufs, hein, qui ont utilisé cette capote interne. Et puis voilà, comme ça donne plein d'éclairages et c'est cool. Enfin, nous, on avait aussi envie de pas toujours nous parler, mais faire parler d'autres personnes. Donc voilà, ça va être un peu installez-vous bien dans votre fauteuil. On va lire des petits témoignages. Et c'est Mimi qui commence.
J'ai voulu tester par curiosité. J'en ai eu gratuitement dans l'infirmerie de mon lycée, alors je me suis dit pourquoi pas. Mais avant toute chose, il faut savoir que ça demande un peu de pratique. J'ai un peu lutté pour le mettre, ce qui est très gênant lorsqu'on est aux côtés de son partenaire qui commence à vous prendre pour une folle. Mais sachez qu'on peut le mettre à l'avance, donc no problème. Si je l'avais su avant, j'aurais eu l'air moins ridicule. Et je ne vous dis pas à quel point on est sexy avec ce truc qui pendouille. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Bref, première impression. C'est un véritable tue-l'amour. C'est plus long à mettre que le préservatif masculin et plus grossier. Mais si votre désir est suffisant, cela ne devrait pas vous stopper. Passons à la pratique. À chaque va-et-vient, on a droit à des scritch-scritch. Super romantique. Et côté sensation, mon ami n'a pas vraiment adhéré. Il avait l'impression de nager dans une chaussette. Bon, je peux pas confirmer. Pour moi, c'est vrai que c'était bien moins intense que d'habitude. On sent une gêne, quelque chose de glissant, comme un sac plastique en nous. Bref, voilà comment ça a fini. On a enlevé tout ça et terminé autrement. Je n'ai vraiment pas été satisfaite. Peut-être que certaines ont adoré, mais j'ai trouvé cela plus gênant qu'agréable. En plus, vu le prix, j'en suis restée au préservatif masculin. Mais bon, un petit mot raisonnable pour finir. Ce n'est pas une raison pour se passer de la capote. N'oubliez pas que c'est la seule chose qui vous protège. Alors on reste vigilant et vigilante. C'est pour ça que je le recommande quand même. Parce que certaines n'ont pas le choix.
Au début, le préservatif féminin me faisait penser à un sac plastique. Mais la capote aussi. Alors j'ai appris à essayer de sentir ce que ça me faisait à l'intérieur. Finalement, il est bien au niveau des sensations. Et pendant la pénétration, il arrive que la collerette du préservatif féminin titille le clito et que son anneau interne chatouille le gland.
Le préservatif féminin, c'est pas impossible à poser, c'est une question d'habitude. Et on a le choix entre deux manières de faire. On peut le mettre en place à l'intérieur du vagin en utilisant l'anneau interne, comme applicateur en fait. Et on peut le mettre jusqu'à 8 heures avant la pénétration. Et du coup, quand on le met plusieurs heures à l'avance, ça suscite des sensations rares dans le vagin. Une impression de léger flottement, comme si on se faisait chatouiller par des douces plumes. En plus, dans ce cas, pour le poser, nul besoin d'interrompre caresses et jeux érotiques en tout genre. Hop, on fait ça comme une lettre à la poste. Et en plus, il n'y a pas d'obligation d'érection. Mais on peut aussi proposer à son partenaire de l'enfiler comme une capote sur son sexe en érection, en prenant bien soin de retirer l'anneau interne, par contre. Et bien sûr, il se prête très bien à l'utilisation d'un god.
Emballage assez grand, 12 cm sur 9. Il est donc plus difficile d'en avoir toujours sur soi. Quoique dans le sac à main, on peut prévoir une petite place. Au moins, on est à l'aise de... Non, excusez-moi. Le préservatif en lui-même est assez grand et large, 17 cm de long et 8 cm de large. Au moins, on est à l'aise dedans. Il peut être mis une heure à l'avance, ce qui permet de ne pas casser les préliminaires. Mais la vue de ce gros anneau peut être surprenante lorsqu'on n'est pas habitué. Donc, si vous ne voulez pas surprendre votre partenaire, prévenez-le. L'avantage qui nous a fait changer, c'est qu'il est en polyuréthane et convient donc parfaitement aux personnes allergiques au latex. Il est tout aussi agréable, voire même plus, car l'homme n'est pas serré dedans et les frottements ne sont absolument pas diminués, effet garanti. Il est lubrifié à l'intérieur et à l'extérieur. Il peut arriver qu'il y ait des petits plis. C'est gênant pour la femme qui devrait alors le replacer. De plus, on peut rajouter, bien que je trouve la lubrification suffisante, tout type de lubrifiant sans risque, puisqu'il n'est pas en latex mais en polyuréthane. Il peut arriver que des bruits s'en échappent, mais c'est relativement rare. Et ce n'est pas si gênant que ça, après tout. La peau transpirante l'une contre l'autre fait aussi du bruit quelquefois, et on n'en fait pas toute une histoire.
Je vais essayer le préservatif féminin parce que je ne mouille pas beaucoup, naturellement. Et c'est difficile de se confier sur ces choses-là. C'est plus facile en parlant du lubrifiant du préservatif féminin.
J'ai essayé le préservatif féminin plusieurs fois maintenant et avec plusieurs partenaires. La première fois, c'était pas le top. J'avais la trouille que ça ne fonctionne pas, que ça craque, que ça passe à côté. Bref, c'était comme un coup pour rien. Je n'étais concentrée que sur la capote et rien d'autre. Et je passais mon temps à vérifier qu'elle était bien en place. Je crois que j'avais besoin de me rassurer par rapport à l'objet, d'être sûre que ça fonctionnait bien. Car après, je l'ai utilisé sans stress, tout à fait normalement. Ce que j'apprécie le plus, c'est que c'est super doux et super chaud. J'adore, une vraie caresse. C'est vrai que ce n'est pas simple à mettre, même si tu as l'habitude de mettre des tampons sans applicateur. Genre tu essayes d'attraper un poisson qui t'échappe des doigts. Mais on y arrive. Il y en a qui disent que ça fait du bruit, et pour l'éviter, il faut ajouter du gel. Moi, ça a fait du bruit la seule fois où j'ai rajouté du gel, donc je conseillerais plutôt une utilisation sans ajout de gel. Il paraît aussi que ça augmente le plaisir féminin. Moi, ça n'a rien changé. Je ne dois pas avoir le clito sous l'anneau. Ce qui est top aussi, c'est que le gars peut rester un peu après et n'est pas obligé de se retirer vite, vite fait comme pour les capotes pour mecs. Et c'est super facile à enlever. Bon, le prix, on le trouve à 1,50€ chez les pharmacies sympas, sinon c'est plus cher. C'est gratuit dans les associations Planning, PMI. J'allais oublier l'avantage principal. Aucun mec ne pourra dire que ça le sert. Plus aucune excuse, les gars. Et puis, je dirais que pour moi, l'autonomie des femmes, c'est quelque chose de super important. Pourtant, je considère que j'ai eu vachement de chance à n'avoir fréquenté que des mecs responsables, auprès desquels, même si les présos masculins ne les enchantaient pas plus que ça, je n'ai jamais eu à insister pour qu'ils en mettent. Mais j'ai aussi travaillé un peu de temps dans le social, auprès de personnes, notamment de personnes en vulnérabilité sociale, sexuelle. C'est pas très beau comme formule, mais j'en trouve pas d'autres, désolée. Et pour qui imposer un préservatif ou même simplement recevoir du respect, ça pouvait être compliqué, voire impensable. Alors je suis super contente qu'un préservatif féminin existe. Et je suis d'accord, c'est quand même très gonflant que ce soit toujours, ou presque, aux nanas d'être plus responsables que les mecs, pour les MST, pour éviter les bébés, et encore pour beaucoup d'autres choses. Ce qui me plaît le plus dans le préservatif féminin, c'est que c'est un moyen de plus de se protéger. Et que ça n'oblige personne à l'utiliser, encore moins à l'adopter. Alors je n'irai pas jusqu'à dire que je le trouve pratique, tout comme je ne trouve pas pratique le préservatif masculin. Idem, ils ne sont pas sexy. Pour moi, ce sont des moyens de prévention, et avec les temps qui courent, faut faire avec.
Alors là, c'est un gars qui parle. J'ai des problèmes d'érection quand je mets une capote. J'ai tout essayé, mais je fais un blocage. Ça fait 3 ans que j'utilise le préservatif féminin à cause de ça. Et pas de problème maintenant. J'en parle même à des amis qui ont le même blocage que moi.
Ben voilà. Alors bon, ben y a des avis qui divergent. Hein, parce que moi, j'ai l'impression que de toute façon, y a aucun moyen de contraception qui convient à tout le monde. Donc c'est, voilà, c'est un peu... On n'arrête pas de le dire à Calib et ça paraît être une évidence. Mais du coup, il y a des personnes pour qui c'était plutôt un plus et des personnes qui n'ont pas trouvé ça super. Quoi.
N'hésitez pas à nous appeler si vous voulez apporter encore un autre témoignage. Ou voilà, 04 76 09 09 09. Si, moi, je voulais revenir juste sur ce truc de nom, parce que là, ça se dit... Je crois que ces témoignages de forum, ils datent quand même d'il y a quelques années, au début, parce que c'est quand même apparu... réapparu, parce que finalement, dès le 19e siècle, ça existait, cette capote, mais après, elle a disparu. Et elle est revenue dans les années 90. Donc, je pense que c'est des messages qui datent du début des années 2000. Et maintenant, où ça s'appelait vraiment préservatif féminin. Mais maintenant, on parle aussi de capote interne ou de préservatif interne. Pourquoi ? Parce qu'on peut aussi l'utiliser pour pratiquer des sodomies. Alors juste, par contre, il faut enlever l'anneau interne, l'anneau de l'intérieur, là, et puis l'utiliser avec la deuxième manière de le mettre, c'est-à-dire sur un sexe en érection, sur un god ou quelque objet que vous décidiez d'utiliser.
Ah, tu veux dire qu'il n'est pas uniquement pour les
oui, les deux gars peuvent très bien l'utiliser sans une idée de contraception et juste pour se protéger de...
Oui, mais du coup, dans ces cas-là, moi, j'ai envie de dire le côté interne, en fait, vu qu'on l'utilise comme si c'était une capote, vu qu'on le pose sur un god ou un sexe, ça, c'est comme si c'était une capote externe.
Bah, tu le poses pour l'installer, mais après, il reste à l'intérieur. C'est-à-dire, il ne bouge pas avec le god
c'est vrai,
ou le sexe.
Oui,
mais il va adhérer aux parois du vagin ou de l'anus rectum.
Enfin, du rectum, oui. Moi, j'ai l'impression aussi que dans ces témoignages, il y avait pas mal ce truc de... on peut le mettre avant, mais ça pendouille, c'est impressionnant ou je sais pas quoi. Moi, je rajouterais qu'effectivement, on peut le mettre avant. Alors, il y a des personnes qui disent dans les témoignages une heure, mais en fait, on peut le mettre plein
jusqu'à
d'heures avant.
Jusqu'à 8 heures, je crois.
Et en tout cas, ce qui est pas dit, c'est qu'on peut le ranger. on peut enfiler cette capote du coup avec l'anneau interne qu'on fait rentrer dans le vagin, etc. Et l'anneau externe, en fait, on peut le tourner et l'insérer dans le vagin pour qu'il pendouille pas dans la culotte, quoi.
Oui, parce qu'en théorie, l'anneau externe reste à l'extérieur et il vient se poser sur la vulve, en fait. Donc, il est à l'extérieur du vagin quand on l'utilise. Mais donc, il y a cette méthode-là pour pouvoir marcher tranquillement dans la rue sans avoir rien qui pendouille entre les jambes. Hop, on le rentre et on va le récupérer quand on en a besoin.
Exactement. Enfin, on le réouvre et on fait gaffe à ce qu'il ne soit pas encore tourné pour que la pénétration elle se fasse bien à l'intérieur du préservatif.
Oui, de ne pas le louper, quoi.
Voilà, de ne pas passer à côté.
C'est dommage.
T'avais d'autres précisions
Non, moi je trouve que c'est au-delà de l'objet pratique, je trouve que c'est un outil intéressant pour libérer la parole sur les sexualités parce que grâce à cet outil-là, on peut parler de plein de choses. On peut parler des lubrifications, comme il y a un mini témoignage à un moment, des lubrifications vaginales, vous savez, ce truc théoriquement, on, dans les croyances, en fait, une femme qui a du désir, elle va lubrifier, elle va mouiller, et une femme qui n'a pas de désir ne mouille pas. Et en fait, ce rapport-là, il n'est pas si évident, ça diffère aussi vachement d'une femme à une autre, d'une période de la vie à une autre, et que du coup, comme ces capotes-là, elles sont bien lubrifiées, je crois qu'il y a quand même pas mal de nanas qui n'osent pas demander plus de lubrification parce qu'elles se disent qu'elles devraient mouiller elles, et que du coup elles n'osent pas dire si on mettait du gel ou machin, là il y est déjà, donc je trouve ça sympa, ça évite aussi qu'il y ait des micro-déchirures.
Mais du coup oui, puis ça veut dire que le rapport de pénétration est quand même beaucoup plus agréable.
Ouais.
Quand on lubrifie pas beaucoup, indépendamment du désir qu'on a, pénétration, c'est pas très sympa.
Ouais, pareil sur ce truc d'érection, où il y a des érections différentes selon les gars, et il y a des gars qui bandent plus dur, plus mou, et que pour mettre un préservatif masculin, en gros, il n'y a pas le choix, quoi. Faut vraiment bander. Si tu débandes, le préservatif s'en va. Enfin voilà,
ça enroule.
Tandis que là, il n'y a pas cette question-là, en fait.
Et du coup, ce qui fait que on peut commencer une pénétration, puis l'arrêter, puis le préservatif il reste toujours là. Et enfin, je veux dire, c'est que quand il y a un moment donné, il y a une éjaculation où là, il faut effectivement pas tarder à l'enlever. Mais en tout cas, c'est pas non plus immédiat comme un préservatif masculin. Mais sinon, effectivement, ça permet aussi de pas envisager la pénétration comme un truc qui se fait de façon ininterrompue et
droit dans la butte sans les mains, n'est-ce pas? Ouais, mais moi je trouve intéressant. Et puis aussi sur ce truc de réaction par rapport à la forme, en fait, à la taille, il y a pas mal de témoignages qui reviennent dessus. En fait, en vrai, une capote en préservatif masculin, là, si tu le déroules, il est assez long aussi, il est moins large, certes. mais c'est quand même assez large, je trouve. Et en fait, ça permet aussi de se figurer un peu comment c'est l'intérieur du vagin, parce que il va, la capote, elle va adhérer aux parois, et du coup... En fait, si le vagin n'est pas dilaté, parce qu'on n'a pas, c'est pas tout le temps un trou béant. En fait, ça dépend aussi du niveau d'excitation de tout ça. Et ben, juste la capote, elle va pas s'étendre. Elle reste fine, comme même encore plus étroit qu'un préservatif masculin. Et après, c'est si le vagin commence à se dilater que ça va suivre les parois.
Parce que ouais, cette matière-là se colle à adhère en fait aux parois du vagin. Et du coup, je crois aussi qu'il y en a... En fait, là, on parle beaucoup de polyuréthane. J'aime beaucoup ce nom. Mais en fait, il y a une nouvelle génération de préservatifs internes qui est en nitrile. Et ça, apparemment... du coup, ça fait genre un ou deux ans. Et je pense que maintenant, tous les préservatifs internes sont de cette matière-là et feraient moins de bruit que la génération précédente.
Ouais, y a ce changement-là. Et l'autre changement, c'est que la génération précédente, il y avait une couture, en fait, dans la longueur et qu'il y a certaines femmes ou personnes, en tout cas, qui ressentaient cette couture et que ça gênait.
D'accord.
Et ça y est plus.
Bon, ben voilà, ben en tout cas, plus tard, après la musique ou une autre fois, vous pouvez toujours nous appeler pour nous raconter vos réussites ou vos déboires avec ce moyen de contraception et de protection des IST ou d'autres. Et puis nous, on va continuer en écoutant une petite chanson.
Oui, c'est Azé Kif Kif.
Paraît que tu me connais, est-ce que moi-même je me connais? On s'est peut-être juste déjà croisé, que déjà tu m'as classé. Comme à la roulette du casino, faites vos jeux, défauts et qualités, les jeux sont faits. T'as plus qu'à m'étiqueter, m'éviter, me flatter. Tu peux même rigoler, en parler, improviser. Tes pensées t'appartiennent, garde-les ou sors-les, elles feront qu'arriver à mes oreilles. Mais jamais elles ne mourront. Défauts et qualités, tes pensées t'appartiennent, laisse-moi être ce que je suis. Occupe-toi d'être ce que tu veux être et chantons, chantons à l'unisson. Ce que la vie a fait de moi. Quand tombe le verdict, appelle-moi l'absente. Chacun sa définition. Ce que je fais de la vie. Quand tombe le verdict, appelle-moi l'absente. Chacun son opinion. Sentir son hobby, devenir phobie. Musique de folie, tout sauf jolie. Ado en panique, même pas poli. Besoin d'harmonie, rap de luxe, la place est vacante. À toutes les prétendantes puristes, Azé, mon créneau hip-hop. Technique, classique, académique. Au service de la France culturelle. Le poids du dédain sur les ailes. Que je puisse m'envoler via de vastes contrées. J'ai tant de choses à compter, tant de choses que j'ai comptées. Je sens que c'est là que je pourrais squatter. Tente, change l'ambiance de tes silences. Finance ce que la vie a fait de moi. Quand tombe le verdict, appelle-moi l'absente. Chacun sa définition. Ce que je fais de la vie. Quand tombe le verdict, appelle-moi l'absente. Chacun son opinion. Faut tragique, les gens se flixent, critiquent. Tu veux pas faire partie des mal vus, des mauvais. T'aimes pas qu'on t'aime pas, qu'il aimerait. Moi j'ai perdu l'habitude de penser à ce que les autres penseraient. Tout pour ma quiétude, je veux pas finir parano. Être déçu pour des mythos, je suis pas là pour faire bien. Je fais, et y'a que moi sur le parcours. Entouré de copains qui s'entendent ou qui font tout pour. Tous ces blabla nous rendaient la vie si grise. Miné bien vite pour des histoires qui n'en étaient pas moralité. Savoir dire kiff ou kiff pas, c'est kiff kiff. Nous a appris à être nous-mêmes. Ce que la vie a fait de moi. Quand tombe le verdict, appelle-moi l'absente. Chacun sa définition. Ce que je fais de la vie. Quand tombe le verdict, appelle-moi l'absente. Chacun son opinion.
êtes à l'écoute de Calibre sur Radio Kaléidoscope 97 FM à Grenoble et partout ailleurs dans le monde intersidéral sur Internet. Ce soir, on a parlé de cheveux rasés, on a parlé de capote interne et on voulait continuer un petit peu dans cette question de maîtrise de la fécondité, de contraception. Il y a des témoignages là dans ce qu'on a lu qui racontent, qui disaient oui, bon, bah, c'est encore un moyen de contraception dont les femmes doivent s'occuper alors que le préservatif masculin, c'est vrai que pour une fois, c'est aux gars de gérer. C'est vrai. C'est un constat, hein. Les moyens de contraception qui sont développés, c'est beaucoup en destination des femmes, en tout cas que ce sont elles qui doivent les gérer. Après, il existe un petit peu aussi de ce qu'on appelle la contraception masculine, bon, plus ou moins développée, hein. Les méthodes, on en a un petit peu parlé déjà sur Calibre.
C'est vrai, il y a la contraception et puis la contraception masculine. C'est assez drôle, je trouve.
Wow, c'est symptomatique. Hein. Voilà, on a eu plusieurs émissions, on a eu des témoignages de gars qui ont décidé de faire une vasectomie, donc de ne plus avoir de spermatozoïdes, enfin de ne plus pouvoir être fécond, on va
du
dire.
Coup, c'est
ça, c'est une contraception définitive. Mais il y a aussi certaines recherches, voire des essais à plus ou moins long terme de méthodes de contraception temporaires, hein, comme existent les méthodes hormonales, par exemple, pour les femmes ou des choses comme ça.
Et bon, c'est vrai qu'on en a parlé, et puis souvent les recherches, elles se font plutôt à l'étranger. Hein. La France, c'est pas un des pays les plus avancés là-dessus. Voilà, mais il y a quand même des méthodes qui existent entre la capote et la vasectomie, qui sont utilisées en France. Et en tout cas, il y a aussi eu des groupes d'hommes qui, dans les années 80, ont fait pas mal d'expérimentations autour de méthodes de contraception. Et on va écouter Claude qui a participé à un groupe contraception dans les années 80. Et c'est un extrait d'une émission de radio qui a été faite par des Toulousaines qui s'appelle Comme à la radio, qui passe sur Canal Sud. On mettra le lien sur la fiche de l'émission. Voilà. Et voilà ce petit extrait. J'espère que ça vous donnera envie d'écouter plus cette émission qui est vraiment sur la contraception masculine, qui interroge un médecin qui est andrologue et qui propose des méthodes de contraception. Mmh. Il y a du coup ce Claude dont on va entendre une partie de l'interview, et puis il y a aussi un témoignage d'un homme qui s'est fait vasectomiser. Voilà. Mmh. Du coup là c'est juste 4 minutes d'une émission d'une heure où il y a plein d'infos, plein de réflexions. Voilà, allons-y.
Alors bonjour, je m'appelle Claude et j'ai participé à un groupe de contraception dans les années 80. Donc,
le départ, c'est quoi ?
Le départ, c'est l'après 68, le mouvement des femmes, qui quand même demande que la prise en charge, en gros, en premier, d'abord, la prise en charge de la contraception soit partagée. Et ensuite, les groupes hommes de discussion, de réflexion, qui disent, ah ben tiens, nous, on aimerait bien, en fait, à la fois partager donc la contraception avec les femmes, mais aussi devenir autonome vis-à-vis de la conception. Autonome dans le sens je peux ou je peux pas, quoi. Et au bout d'un certain temps, et moi c'est là où je rentre dans la bataille, on va dire, ces groupes se posent la question de la contraception de manière plus pratique et vont créer des groupes expérimentaux de contraception, donc groupes hormonaux, groupes de slip chauffant, où ils vont chauffer les testicules à partir d'une résistance dans le slip. Donc ils se chauffent les testicules pendant quelques heures dans la journée. Et un troisième groupe spécifique à Toulouse qui est le RCT, le remonte-couille toulousain, qui va donc expérimenter une technique de testicules remontés dans les canaux inguinaux dans le ventre.
Et ça se fait dans quel cadre, cette expérimentation ? Combien vous êtes ? Avec qui ? Est-ce qu'il y a un suivi médical ?
Donc au départ, il y a un groupe homme qui discute de tout ça. Et à partir de ce groupe homme, à l'intérieur du groupe homme, il y a des gens qui partent sur la contraception. Et il y a un appel à d'autres gens qui ne sont pas forcément des gens du groupe homme, dont moi par exemple, et d'autres gens, qui veulent bien essayer une expérience de contraception. Cette expérience va se faire dans le cadre de ce groupe autonome et aussi dans le cadre du CECOS.
Centre d'études et de conservation des œufs et du sperme.
Voilà, dans lequel travaillait au départ, je crois, un médecin qui était médecin ami, on va dire, et qui travaillait au sein du CECOS et qui va
à l'hôpital.
C'est à l'hôpital, oui. C'était à l'hôpital de Grave. Donc expérimenter et en même temps faire un suivi de l'expérimentation de manière médicale avec un protocole. Donc quand on a commencé l'expérimentation, on a signé un protocole qui faisait que le CECOS prenait en charge tous nos spermogrammes, donc études du sperme, avant l'expérimentation. On avait fait une série de spermogrammes avant l'expérimentation, et pendant l'expérimentation, on faisait des spermogrammes tous les 15 jours, en gros. Donc on partait au CECOS, on se masturbait, on éjaculait, quoi, et après on étudiait le sperme, où on arrivait avec, pour ceux qui habitaient à côté, des éprouvettes remplies de sperme et tout frais.
Et alors, quel résultat ?
Donc en gros, en 3 mois, les gens... Donc on a, puisqu'on fait les spermogrammes régulièrement, on a une courbe de notre spermatogénèse, et en 3 mois, on voit que cette courbe descend en dessous des 5 millions où on considère que les gens sont stériles. Voilà. Il y a un terme, je crois que c'est azoostermie, mais je ne suis pas... Azoostermie, je crois que c'est zéro, c'était truc, mais enfin, moi, je ne sais pas le terme médical. Mais en gros, on est en dessous des normes de stérilité reconnues médicalement. Et ça, en gros, donc il y a deux groupes. Le premier groupe, on est une petite quinzaine. Le deuxième groupe aussi, qui commence... l'expérimentation 6 mois, 1 an après et tout. Mais en gros, tous les gens qui commencent l'expérimentation, au bout de 3 mois, sont stériles.
Et donc, ça marche.
Voilà, alors c'est la méthode qu'ils utilisent n'est pas très explicite, donc peut-être on va faire...
Le fameux remonte-couille toulousain, tu veux
voilà,
dire.
Ouais, non, c'est...
Qu'est-ce
Voilà, ou le RCT, si on ne veut pas mettre l'accent, mais on peut faire le
RCT.
Non, j'adore cet accent, en plus, bon, bref, passons.
Bon, alors, le remonte-couille toulousain, en fait, parce que ils ont parlé du slip chauffant et du remonte-couille toulousain, c'est un peu deux
écoles,
deux techniques différentes, mais en fait qui se basent sur le même principe, qui est que en fait si on chauffe les couilles, qui sont le lieu de production de spermatozoïdes, les couilles arrêtent de produire des spermatozoïdes.
Anatomiquement, c'est pour ça qu'il y a les bourses qui pendent, c'est parce que c'est pour qu'elles soient un petit peu loin de la température du corps, parce qu'à température du corps, il n'y a pas de spermatozoïdes féconds. En fait.
Donc le slip chauffant chauffe les couilles directement et le remonte-couille...
Le slip chauffant, genre il faut une prise et se brancher sur une prise de courant.
J'en sais pas beaucoup plus.
Peut-être
mais
qu'il y a
je
des piles
peu...
rechargeables.
Maintenant, depuis. Ouais, avec énergie solaire, je sais pas. et le remonte-couille toulousain, en fait, c'est un mécanisme qui... c'est un espèce d'anneau qu'on met autour de la verge et autour de la peau des bourses et où on remonte, parce qu'en fait, à l'intérieur au-dessus des couilles, il y a une cavité où on peut rentrer les couilles sans problème. Le problème, c'est qu'il faut trouver un moyen pour pas qu'elles redescendent. Du coup, il y a un anneau qui fait que ça empêche les couilles de redescendre. Et c'est ce qu'on appelle le remonte-couille toulousain. Et du coup, ces hommes-là portaient ce RCT pendant toute la journée, puis l'enlevaient la nuit. Et au bout de 3 mois, la production de spermatozoïdes avait fortement baissé. Là, c'est ce qu'ils disent. En tout cas, on considère que la personne est stérile. Et du coup, si on arrête de porter ce remonte-couille toulousain au quotidien, en fait, la production recommence.
D'accord.
Voilà. Bon, c'est une technique qui n'est plus utilisée, en tout cas par très très peu de gens, j'imagine, actuellement. Mais en tout cas, il y a eu des gars qui ont expérimenté ce truc-là dans les années 80. Du coup, on peut continuer à chercher et tout ça, quoi. Mais bon, au-delà des techniques vraiment proprement dites de contraception masculine. Nous, on avait envie de dire aussi que...
Oui, alors moi, là, je voulais juste dire aussi, là, on se moque un peu du remont-couille toulousain, toute la journée, nanana, la prise. Bon, de toute façon, en moyenne de contraception, c'est la merde. Hein. Faut y penser, faut gérer, c'est chiant. Donc voilà, et oui, c'est chiant. Faut porter un slip tous les jours.
Enfin, après, oui, c'est un slip. Je pense que c'est une espèce de... En fait, c'est un anneau qui est maintenu par des liens qui pourraient avoir la forme d'un slip, quoi. C'est pas un slip qu'on rajoute à son autre slip, quoi. Mmh. C'est un sous-slip, quoi.
Est-ce que tu crois qu'une micro-bouillotte bien placée, ça pourrait marcher?
Ouais, mais après, elle refroidit, quoi, la bouillotte.
Ouais.
Puis bon, faut l'avoir entre les jambes, quoi.
Une bouillotte thermos.
Oui, mais ça, c'est comme le slip chauffant,
ouais,
finalement.
C'est vrai.
Tu n'as rien inventé.
Ah, dommage. Oui, bon, en étant un peu plus sérieuse...
Même au-delà de commencer à mettre son remont-de-couille toulousain tous les jours... en fait, il s'appelle remont-de-couille toulousain parce que les expériences avaient lieu à Toulouse. Hein.
On pourrait l'appeler le monte-testicule grenoblois, par exemple.
Aussi, si jamais...
MTG.
Bref, rassemblons-nous. Ce qu'on voulait dire, c'est qu'au-delà des techniques concrètes de contraception, les garçons ont aussi d'autres manières de participer
à cette prise en charge-là.
Voilà, parce que bon, il y a l'autonomie dont parle Claude qui est importante, parce que c'est bien aussi que des hommes se disent, en fait, moi, je veux pas d'enfants, du coup, je suis autonome sur ma contraception. Mais il y a aussi dans le cadre de partage de la contraception avec des filles.
Mmh. Et cette participation, elle peut se faire de plein de manières. Moi, j'ai l'impression, je vais être un peu trash. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même des bases que les gars ne devraient pas pouvoir éviter, c'est-à-dire au moins participer financièrement à hauteur de la moitié du coût de tout ce que englobe une contraception en termes d'achat de méthodes de contraception, de visites médicales, tout ça, quoi. Et il n'y a pas tellement de mecs dans des couples hétéros finalement qui participent financièrement, enfin c'est pas tout le monde, quoi, alors que ça me paraît tellement l'évidence, mais bon, voilà. Il y a aussi la prise en charge, j'ai envie de dire morale, c'est-à-dire par exemple si la méthode de contraception c'est la pilule, et ben il faut penser à prendre la pilule tous les jours, et ben c'est bien que ce soit pas forcément à la meuf d'y penser, mais que le compagnon puisse aussi lui se mettre son alarme sur son téléphone et le rappeler, faire attention d'avoir toujours des capotes
en sachant que sa partenaire a un stérilé, de savoir à quelle date elle l'a posé et à quel moment elle doit le changer. Sur des contraceptions qui sont à plus longue durée, la prise en considération, elle ne doit pas non plus s'arrêter, quoi.
Mmh. Oui, et puis de regarder les avantages, les inconvénients avant aussi, enfin de se renseigner, quoi, être au courant et avoir vraiment cette charge morale. Je ne vois pas d'autre mot, en fait, d'être là, quoi, d'être là pour ça.
Et puis aussi, en soutien, accompagner la partenaire chez le gynéco, aller acheter la pilule avec l'ordonnance à la pharmacie, faire des démarches concrètes pour soulager la fille, quoi.
Mmh. Oui, et puis aussi, j'avais envie de dire, les méthodes de contraception qu'on connaît, donc qui sont même carrément destinées aux femmes, elles ne sont pas sorties de nulle part non plus. Hein. C'est le fruit de luttes, de demandes, de besoins et vraiment de luttes sociales, de revendications. Et que c'est sûr qu'au début, les méthodes notamment hormonales, il y avait des effets secondaires de dingue. Et c'est à force de demander à ce que ce soit amélioré, de faire la pression, que ces méthodes-là, qui sont loin d'être parfaites, mais s'améliorent au fur et à mesure. Et on ne peut pas s'arrêter au constat de dire « Ah, il n'y a pas de contraception pour les gars. » Mais il faut y aller, quoi. Il faut demander à ce qu'il y en ait, il faut s'investir, il faut faire de la pression, quoi.
Puis sachant que tu parles de méthode hormonale, pour le coup, il en existe une de méthode hormonale pour les hommes. C'est la prise de testostérone qui a pour effet d'arrêter aussi la production de spermatozoïdes. Et ça, le médecin qui est interviewé dans l'émission de radio dont on a passé l'extrait prescrit ce type de contraception. Le fait est qu'actuellement, c'est des injections hebdomadaires parce qu'on n'a pas trouvé la manière de le faire en pilule ou je ne sais pas quoi, enfin bref, de le synthétiser. Mais en tout cas, c'est encore possible. Et ce qui veut dire aussi que même si vous n'êtes pas à Toulouse, parce que ce médecin, il dit « Bon, ben moi, je suis à Toulouse, il y avait un service qui faisait de la contraception à Lyon, mais le type, il a changé de secteur. À Paris, il est parti à la retraite. » Enfin, aussi, faut se renseigner chez les gens qui savent et puis faire en sorte que ça soit possible parce que le gars, il bosse à l'hôpital. Hein, du coup, ça veut, si on fait un peu du lobbying, c'est possible d'avoir aussi la même chose dans d'autres villes. Quoi. Enfin, en tout cas, nous, on n'a pas toutes les solutions pour lutter contre ça. C'est peut-être aussi au gars de se bouger les fesses et de réfléchir à comment c'est possible. On balance là-bas. Là, on est un peu... Allez. Mais bon, voilà. Mais en fait, on s'emballe. C'est l'heure. On a encore des choses à vous dire. Donc, on va arrêter.
On n'aurait qu'à arrêter. Voilà.
Voilà.
Mais voilà, n'hésitez pas à nous appeler aussi sur de prochaines émissions, hein, notamment les gars, si vous voulez, pour témoigner de vos efforts de contraception.
Et voilà. Et écoutez cette émission dont on mettra le lien sur l'émission. Peut-être juste rapidement
pour conclure un petit appel à témoignage qu'on a reçu dans la boîte. Donc c'est une nana qui est post-doctorante à Rennes et qui fait une recherche, alors ça s'appelle la géographie de la sexualité, et en fait elle bosse particulièrement sur les pratiques lesbiennes sur les plages. Donc son constat, c'est que les plages homosexuelles sont quasiment toutes destinées aux hommes, et du coup dans son projet de recherche, elle cherche à voir comment territorialisent les lesbiennes sur le littoral. Donc elle voudrait repérer la façon de s'organiser, de socialiser dans un lieu public comme la plage, et notamment pour faire face au manque d'espace de sociabilité et de rencontres non mixtes. Donc comment ça se déroule? Il y a des questionnaires et des entretiens. Donc elle cherche des personnes intéressées pour participer de façon anonyme à cette recherche. Donc il y a un questionnaire en ligne auquel on peut répondre. Pareil, on vous mettra le lien sur le site. Et puis après, s'il y a éventuellement des personnes disponibles pour répondre aux questions de l'entretien, elle cherche donc des lesbiennes motivées et intéressées. Voilà.
Et sinon, pour finir, parce qu'après on a pour conclure, puis après on a pour finir, un petit agenda. Bon, cette soirée a déjà annoncé la semaine dernière, mais rannonçons-la. Ça se passe samedi soir, donc samedi 16 juin, à la BAF de Chemin des Alpins. C'est une soirée en soutien à des lesbiennes demandeuses d'asile. Et en fait, il va y avoir un film. Pink Camouflage, donc à 18h30, ce qui est un film qui parle de la complexité, de la solidarité internationale et de la question du racisme dans les milieux lesbiens, gays, bi et trans. Et après, il y aura une bouffe vegan, enfin un resto vegan, et après une fête. Voilà, et c'est une soirée qui est en mixité choisie, trans, gwyn, PD, meuf. Voilà.
Okay.
Donc, c'était Calibre. Ce soir, on était avec Noémie et Lou à la technique.
Et Mélanie et Myriam au micro. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine. Et puis, on se retrouve jeudi prochain, même endroit, même heure. Salut.
Bye bye.
Corps.
Amour. Sexualité.
Calibre, une émission en direct sur Radio Kaléidoscope.
Calibre, une antenne libre où poser des questions sans tabou ni jugement.
Tous les jeudis, de 20h à 21h, appelez-nous au 04 76 09 09 09.